Chapitre 19. Le cabas à l'épaule, la lentille de sa torche filtrée par deux doigts de la main gauche et le Heckler & Koch serré dans son poing droit, Jane avançait, tous ses sens en alerte sous l'effet de la peur et de l'adrénaline. Les zones d'ombre qui l'entouraient se déplaçaient au gré de la lampe en animant des formes fantomatiques. Pas un bruit ne traversait l'espace, en dehors du murmure cristallin des gouttes d'eau qui s'écoulaient du plafond en égrenant les secondes, ainsi qu'elles le faisaient depuis des millions d'années. Il flottait dans l'air une odeur de pierre humide et de peur. Jane se retrouvait prise au piège de l'un des rêves qui hantaient ses nuits, chaque minute la rapprochant du règlement de compte final, au terme duquel elle tuerait ou serait tuée. Les grottes déroulaient leur immensité de façon fluide, leurs parois fondant à son approche pour mieux se reconstituer derrière elles. Les crânes et les défenses gigantesques des mastodontes reprenaient vie sous ses yeux. Les régiments de squelettes de mains, des mains qui avaient travaillé, joué, caressé, combattu, dessinaient une infinité de gestes décharnés. Dans ses cauchemars, ses adversaires les plus terrifiants étaient invariablement des humains. À l'inverse du tigre ou du loup, seuls les monstres issus du genre humain étaient capables de reconnaître la beauté et de la repousser, de savoir la vérité et de la dédaigner, d'entrevoir la paix et de la rejeter. Cette fois, le monstre était un enfant. Un enfant perdu qui cherchait sa voie depuis près d'un demi-siècle dans ce souterrain dont l'obscurité le rassurait. On lui avait ordonné de la tuer. Il le ferait avec une sauvagerie d'autant plus grande qu'il confondait Jane, dans sa démence, avec cette mère haïe qui avait fait de lui une bête. Jane atteignit l'extrémité du cimetière de main et fit halte à l'orée du sas qui la séparait de la grotte suivante. Un large couloir s'ouvrait à droite. Un étroit boyau partait vers la gauche, et une troisième ouverture permettait d'accéder à une caverne dépourvue de reliques. Elle ne se trouvait plus qu'à quelques niveaux de la sortie. Elle avança lentement, retira les deux doigts qui filtraient le faisceau de la lampe et fit danser celui-ci sur le couloir de droite. Des marches s'enfonçaient dans la roche en zigzagant avant de s'évanouir dans la pénombre. À l'inverse, le boyau de gauche filait dans le noir de façon rectiligne. Elle masqua la lumière et tendit l'oreille. Un murmure lui parvint de la caverne voisine. Et elle se souvint d'y avoir entrevu un conduit naturel à travers lequel s'écoulait un mince filet d'eau. Elle s'efforça de percevoir les bruits au-delà de ce chuchotement humide, à l'affût d'un son signalant la présence de son ennemi. En vain. Elle se figea sur le seuil de la grotte, sous un surplomb rocheux, et pointa en avant le canon du pistolet. Elle découvrit la lentille de la torche et explora l'obscurité sans découvrir le moindre recoin dans lequel aurait pu se dissimuler l'ennemi. Le passage le plus dangereux était un petit pont de planches enjambant la crevasse qui coupait la caverne en deux. Elle ne se souvenait pas de la profondeur et de la largeur de cette faille. Jusque-là, elle avait fait preuve de prudence chaque fois qu'elle en traversait une, de peur qu'il se tapisse au fond et l'arrose d'une volée de balles lorsqu'elle franchirait l'obstacle. À mesure qu'elle approchait du but, la moindre difficulté de terrain signalait un danger croissant. Elle reposa ses doigts sur la lentille et avança dans la grotte. Elle l'entendit une fraction de seconde seulement avant qu'il ne lui fonde dessus depuis le surplomb rocheux. Elle chuta lourdement à terre. Le éclair lui échappa et roula sur le sol, tout comme la torche. Il l'étouffait de tout son poids, et elle attendit le coup de grâce dans l'incapacité de résister. Au lieu de l'achever, il la bascula sur le dos et l'immobilisa avec ses genoux en lui enserrant la gorge d'une main avec une telle férocité qu'elle ne parvenait plus à respirer. À la lueur diffuse de la torche, le visage de son agresseur dessinait un masque grotesque d'ombre et de lumière, déformé par la haine. Il n'avait plus rien d'humain, comme si cette remontée des enfers l'avait définitivement privé de toute identité, en dévoilant l'être primitif qui sommeillait au fond de lui. Un être barbare, dépourvu d'intelligence, soumis à la dictature de ses émotions les plus primaires. Il ouvrit la bouche, et les mots sortirent sous forme de cris torturés, éructés au milieu d'une pluie de postillons. « Il m'appartient, et il m'appartiendra toujours. Tu as compris ? Tu as compris ? Il m'appartient, et il m'appartiendra toujours ? Qu'est-ce que tu en dis à présent, pauvre salope ? Tu crois vraiment que je t'appartiens ? Que je t'appartiendrai toujours ? Jamais de la vie ! C'est toi qui m'appartiens désormais ! » Il ne faisait plus la différence entre Jane et Annabelle. Ou bien alors cette différence avait perdu toute importance. Elle voulut arracher la main qui l'empêchait de respirer et l'égratigna douloureusement. Un voile d'obscurité s'abattit sur elle à cause du manque d'oxygène. Mais elle le vit du coin de l'œil ramasser de la main droite un objet qu'il brandit au-dessus de sa tête. Un fémur humain, prélevé dans une caverne qu'elle n'avait pas visitée. L'extrémité de l'os, brisée, était couronnée d'échardes acérées. Sous l'effet de la démence, il n'était plus capable de se servir de son arme automatique, ou alors il avait négligé d'emporter des chargeurs de rechange en se lançant à sa poursuite. À force de scruter ce visage diabolique dans lequel brillaient deux yeux rougis par un élan sanguinaire décadent, elle comprit qu'il avait abandonné son arme par besoin de tuer à main nue, de respirer sa terreur, de la sentir trembler sous lui, de voir couler son sang. Le voile se fit plus opaque encore. Si elle avait la possibilité d'emporter avec elle une dernière image, elle voulait que ce soit celle de son fils, de son cher Travis, dont l'innocence était le contrepoint de la vision du mal à laquelle elle se trouvait confrontée. Hendrickson voulut enfoncer l'extrémité acérée du fémur dans ses yeux. Peut-être le visage de Travis donna-t-il à Jane un ultime sursaut de force, alors que ses poumons étaient près d'éclater, mais elle trouva le moyen de le soulever légèrement et de tourner la tête. L'os s'écrasa contre la pierre en l'arrosant d'échardes. Des décennies de haine alimentaient la force surhumaine de Hendrickson. Mais en éclatant contre la roche avec une telle force, le fémur envoya dans son bras droit des vibrations qui le déstabilisèrent, et l'arme de fortune s'échappa de ses doigts gourds. Sa rage décupla lorsqu'il constata qu'elle était indemne, au point d'en perdre son instinct animal. Il lui lâcha la gorge, serra le poing de la main gauche avec l'intention de la frapper, et la pression de ses genoux se relâcha sur les cuisses de Jane. Elle en profita pour plier la jambe gauche avec l'intention de lui asséner un coup de pied dans les testicules. Elle manqua sa cible, mais le coup l'atteignit à l'aine. Déséquilibré, il abattit son poing dans le vide, et elle le repoussa avec force. Il chuta lourdement, et elle se releva d'un bond. Elle chercha son pistolet des yeux, sans succès. Il avait dû voler dans un coin d'ombre, à moins qu'il ne se soit perdu dans la crevasse. Hendrickson se remit péniblement debout, dos à elle, en laissant échapper un chapelet d'obscénité tel que Jane n'en avait jamais entendu de sa vie, comme si son vocabulaire se limitait désormais aux images les plus ordurières. Il se retourna et se rua sur elle. En désespoir de cause, elle ramassa le fémur dont l'extrémité, en se brisant contre la roche, avait éclaté en une forêt de pointes aiguisées comme des stylets. Emporté par sa haine, il ne vit pas l'arme, et le fémur acéré se ficha profondément dans sa gorge. Jane recula vivement, en laissant l'os enfoncé dans la chair. Du sang s'écoulait de la plaie, mais en trop petite quantité pour signaler la rupture de la carotide, ainsi qu'elle l'avait espéré. Figé par la stupeur, il tituba en remuant silencieusement les lèvres, la main sur le fémur fichée dans son cou. Loin de s'écrouler, il trouva la force de dégager l'os de sa gorge trouée et s'avança vers elle d'un air menaçant, tel un dieu de vengeance indestructible. Du pied, il repoussa la torche en montrant un rictus sanglant. La lampe, telle une roulette, tourna sur elle-même, avant de s'arrêter en révélant brusquement l'emplacement du éclair. Jane ramassa prestement celui-ci, serra la crosse entre ses deux poings et tira à trois reprises sur Booth Hendrickson, à l'instant où il se jetait sur elle en brandissant le fémur. Il s'écroula à ses pieds, mort, et elle fit à nouveau feu sur sa dépouille par deux fois.